One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite de nos previews de la saison NFL. Un jour, une preview sur Touchdown Actu avec les 49ers au menu pour cette présentation de la saison 2021. Lucas Vola est avec nous. Bonjour Lucas.
Salut messieurs, salut tout le monde.
Grégory Richard est également là. Bonjour Grégory.
Bonjour messieurs, bonjour à tous.
On va parler de cette équipe de San Francisco à 6 victoires et 10 défaites la saison dernière. Du côté des signatures, on fait venir notamment Alex Mack sur la ligne offensive, Arden Key, Maurice Hurst, Samson Mukam, Nate Gary, Tony Jefferson, Tavon Wilson en défense, Mohamed Sanu, Wayne Gallman pour aider aussi en attaque. La draft, évidemment, c'était Trey Lance en troisième position au quarterback. Je pense qu'on va beaucoup en parler. Du côté des pertes, il y a notamment Kendrick Bourne, Jerick McKinnon, Ben Garland, Solomon Thomas, Richard Sherman ou Akello Witherspoon. Richard Sherman qui n'a signé nulle part au moment où on enregistre, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Donc bon, c'est peut-être pas exclu que éventuellement, mais il a plutôt fait ses adieux. Jimmy Garoppolo n'a joué que 6 matchs l'an dernier. Sachez d'ailleurs qu'en 4 saisons à San Francisco, il n'a joué plus de 6 matchs qu'à une seule reprise. Trey Lance a été sélectionné en troisième position de la draft. Lucas, est-ce qu'on est sur une année de passation de pouvoir? J'ai envie de dire volontairement ou involontairement, parce qu'il y a quand même 3 chances sur 4 du coup que Jimmy Garoppolo ne joue pas plus de 6 matchs.
Alors, je crois qu'il y a une saison où il arrive en milieu de saison, Garoppolo. Il est tradé milieu de saison, donc on va dire une chance sur 3. C'était un peu dur avec lui, mais je suis assez d'accord avec toi. Tu parlais tout à l'heure des depth charts qui sont sortis officiellement. Je crois que pour l'instant, Garoppolo est le quarterback titulaire, alors c'est peut-être amené à changer. De ce qui ressort du training camp, apparemment, Trey Lance fait grosse impression et apparemment, Garoppolo fait encore plus grosse impression, à croire que voilà, il se dirait que l'arrivée d'un quarterback rookie ait fait augmenter son niveau de jeu. Maintenant, j'ai du mal à imaginer qu'on monte dans la draft, qu'on choisisse un quarterback troisième pour ne pas le faire jouer. Pour moi, c'est une question que je me pose. En tout cas, pas le faire jouer la première saison, je sais pas. Mais ça ressemble en effet à une passation de pouvoir dans le sens où Garoppolo, même quand il joue, on sait ce qu'il donne. Garoppolo, c'est pas un mauvais quarterback du tout. C'est pas forcément le meilleur quarterback de la ligue ou dans le top 5. C'est un petit peu voilà le Alex Smith des temps modernes, le quarterback au milieu qui est ni bon ni mauvais, qui ne fait pas perdre de match, mais qu'il faut bien entourer pour pouvoir en gagner.
Greg, on va faire un peu de redite par rapport à la draft, mais il faut faire le rappel. Trey Lance, c'est quoi en troisième position de la draft? On parle pour l'instant de le incorporer dans des actions spécialement dessinées pour lui parce qu'il est très mobile. Est-ce que ça peut être une porte d'entrée avant de prendre le pouvoir?
Oui, bah je pense. Hein, de toute façon, je pense que, enfin, sans vouloir être sévère, je suis pas sûr que ce soit lui rendre service tout de suite que de le lancer dans le grand bain. On rappelle qu'on parlait d'un joueur qui était voilà, qui a fait une saison vraiment hyper explosive lors de la campagne 2019 en deuxième division universitaire, dans une place forte en plus de la deuxième division universitaire, à savoir North Dakota State, ancien programme de Carson Wentz pour l'anecdote. Mais Wentz avait déjà un peu plus d'expérience en l'occurrence quand il s'est présenté en NFL. Trey Lance, c'est une année, sachant que la suivante forcément a été impactée par la Covid et que Trey Lance n'a pris part qu'à une seule rencontre assez moyenne de surcroît. Donc j'en avais parlé, c'est un joueur qui a rarement été critiqué d'un point de vue état d'esprit. On sait ce qu'il est capable de faire sur le terrain, mais c'est dans le bon et dans le moins bon côté. C'est-à-dire qu'en effet, c'est un joueur qui est capable d'être extrêmement productif d'un point de vue stats Et il l'a montré, zéro interception en l'occurrence l'année, je crois, où il performe avec North Dakota State en 2019. Mais c'est vrai aussi que c'était avec des fenêtres de tir, optimisées, on dira, pour pas trop l'exposer. Et voilà, que c'était avant tout un joueur qui était utilisé pour le profil double menace. Dans le profil de jeu de San Francisco en attaque, avec un jeu au sol qui, à mon avis, va être un peu plus martelé, parce que ça va être un peu mis à mal l'année passée, pour de nombreuses raisons. C'est pas le joueur qui sera le plus déconnant, mais c'est sûr que oui, je vois bien une première année de transition de par ce phénomène-là, c'est-à-dire l'utiliser avant tout pour mettre en avant sa mobilité, le temps justement qu'il se façonne à l'entraînement et qu'il devienne vraiment un peu plus poli en termes de pocket passeur à l'orée de la saison 2022.
Bon, Lucas, on parle beaucoup quarterback, mais est-ce que c'est la première raison pour laquelle ils peuvent gagner ? J'ai l'impression que ça se passe plutôt de l'autre côté du ballon.
Oui, ça se passe de l'autre côté du ballon. Pour moi, j'ai noté les deux lignes. La ligne offensive, qui pour moi est une très bonne ligne, qui fait partie des meilleures lignes offensives, notamment pour la course. Greg en a parlé. Ils ont re-signé Trent Williams. Il y a McGlinchey de l'autre côté. Même à l'intérieur avec Tomlinson et le rookie Banks, pourquoi pas. Alex Mack, qui n'est pas forcément à son meilleur niveau depuis quelques années, mais qui connaît bien Kyle Shanahan. Et qui pourrait rentrer dans le système, qui connaît en tout cas le système. Je vois Greg qui fait non de la tête. Il a dû subir Alex Mack quelques matchs ces derniers temps, mais je me dis qu'avec Kyle Shanahan ça peut le faire. Et puis il y a surtout l'autre côté du ballon, avec la ligne défensive qui est aussi parmi les meilleures lignes défensives, avec certainement le retour de Nick Bosa, on va espérer qu'il revienne à son meilleur niveau. Dee Ford, pareil. Si tous les joueurs de cette ligne reviennent à leur niveau, Arik Armstead, qui va profiter des deux retours. On le sait, quand tout le monde était là, il avait fait une saison à plus de 10 sacs il y a deux saisons. Les deux lignes, pour moi, font partie des raisons pour lesquelles San Francisco peut gagner.
On va aller sur la défense d'abord. Cinquième défense de la Ligue l'an dernier sans Nick Bosa. Quatrième contre la passe. Dee Ford était aussi blessé. Il y a Robert Saleh qui est parti, le coordinateur défensif, mais contre ta ligne, Nick Bosa, Dee Ford, Fred Warner sur la ligne de linebacker, Jason Verrett qui sort d'une bonne saison, Kawan Williams, des safety solides, il y a quand même de la qualité absolument à tous les étages, Grégory, même sans son coordinateur, cette défense, normalement, elle doit être solide.
Oui, non, très clairement. Bah, ce qui est assez intéressant, c'est que, alors, on rappelle que l'année 2019, pardon, lorsqu'ils vont au Super Bowl, c'est avant tout leur pass rush qui était vanté, hein. C'était vraiment une ligne défensive qui était capable de faire feu de tout bois. Là, avec les nombreux pépins physiques dont a parlé Lucas, notamment forcément les absences de Nick Bosa et de Dee Ford, on a un peu plus vu le run stop, symbolisé notamment par des Fred Warner ou des Dre Greenlaw qui progressent de semaine en semaine. Donc c'est vrai que en se disant que avec le retour de certains cadres sur cette ligne défensive, même en effet avec le départ de Robert Saleh et la prise en fonction du relativement jeune D'Amico Ryans, qui en l'occurrence il n'y a pas une expérience énormissime en tant que coach défensif, donc c'est vrai que d'être propulsé comme ça coordinateur défensif, c'est quand même une grosse responsabilité, mais voilà, on a vu des jeunes coachs très aguerris très rapidement. Donc ça peut être le cas encore une fois avec ce groupe très complet. On l'a dit, qui peut en plus éventuellement profiter du retour de Richard Sherman, parce que pour l'instant rien n'est joué très concrètement. Sachant que oui, ils ont récupéré Clinton Dix il n'y a pas si longtemps que ça sur l'intérieur du backfield. Donc voilà, c'est vrai que il y a un backfield où il y a peut-être un petit peu moins de stars, mais où ça reste cohérent. Mais en tout cas, oui, ils ont un gros front seven qui pourrait leur permettre de nouveau d'être très très dissuasif, non seulement dans leur division, mais en plus à l'échelon national.
Du côté donc de la ligne offensive, t'en as bien parlé, Lucas, mais on dit un mot avec Greg. Kyle Shanahan, c'est aussi la course. L'année dernière, ils ont un Jeff Wilson à 4,8 yards par course. Ça a l'air de marcher avec n'importe qui. Alex Mack en plus au centre. Ce sera encore une fois un des gros points forts de cette attaque, et ce sera aussi leur base de fonctionnement, quoi.
Bah, en fait, le souci, alors, c'est toujours un petit peu compliqué d'analyser les Niners et notamment leur attaque, parce que c'est vrai que Kyle Shanahan, alors, il a ce côté très sûr de lui, cette science un petit peu, comme tu dis, hein, je peux mettre n'importe qui, ça va fonctionner, etc. En tout cas, un système très bien huilé. Et ça, on ne peut pas lui retirer. Après, c'est vrai que quand on regarde, mine de rien, son bilan après maintenant 4 saisons, si je ne dis pas de bêtises, c'est vrai qu'il y a des fiches qui sont souvent décevantes aussi parce qu'il y a quand même un phénomène autour des Niners où il y a des cascades de blessés. L'année dernière, ça a été une des équipes les plus impactées par la Covid, notamment en attaque. Hein. On se rappelle, je crois que c'était le First Down contre Green Bay où on ne savait même pas s'ils allaient avoir le nombre suffisant de joueurs en attaque. J'exagère un peu, mais c'était un peu l'idée. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, voilà, on se dit que sur le papier, Voilà, Lucas parlait tout à l'heure notamment des deux tackles qui pour moi voilà sont ils ont peut-être le meilleur duo de tackle, un des tout meilleurs duos de tackle de la ligue très clairement et c'est sûr que oui sur le jeu au sol ils peuvent mettre absolument n'importe qui. Je suis très curieux de voir ce que peut donner Rookie Trey Sermon qui lui aussi en l'occurrence est un peu fragile mais en tout cas a montré d'excellentes choses l'an dernier à Ohio State. Et c'est vrai que ça peut être une attaque au sol hyper détonnante. Encore une fois, si on y incorpore en plus Trey Lance, ils ont des receveurs en plus qui ne sont pas forcément très traditionnels parce qu'ils ont des receveurs qui peuvent prendre justement la largeur, les espaces pour justement être capable d'être menaçant dans ce domaine-là et d'apporter encore un peu plus de vitesse en sortie de backfield. Donc oui, non, très franchement, ça peut vraiment être une attaque de nouveau hyper imprévisible et même sans un quarterback élite. Que ce soit Garoppolo ou Lens, il y a largement de quoi être productif si, encore une fois, on laisse de côté voilà, les petits bobos et les blessures perpétuelles sur chaque match, quoi.
Lucas, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, là où je suis d'accord avec toi, en fait, c'est que moi, je trouve que Kyle Shanahan fait partie des tout meilleurs coachs de la Ligue. Mais là où je te rejoins, c'est que j'ai l'impression, en tout cas, c'est l'impression qu'il donne pour l'instant, parce que peut-être qu'il n'a pas eu la chance de le prouver, mais que c'est un coach qui arrive à faire passer une équipe moyenne à bonne. Mais est-ce qu'il est capable de faire passer une équipe bonne à très bonne et à, alors il a amené son équipe au Super Bowl, mais il manquait quelque chose pour faire gagner, pour faire passer son équipe de favori à champion. Alors, tu l'as dit, il n'a pas forcément eu l'occasion, il n'a pas eu forcément beaucoup de chance, notamment avec les blessures du côté du quarterback, du côté de la défense. Donc, il n'a pas forcément eu l'occasion de le prouver. Maintenant, cette saison, on va le prouver parce que c'est vrai qu'il a une grosse hype et je pense qu'elle est méritée, mais est-ce qu'il arrive à faire passer, on connaît, il y a des coachs comme ça qui sont dans ce style-là. Est-ce qu'il va réussir à faire passer son équipe à l'étape supérieure? Ça reste à voir.
Bah après, si on prend le CV à l'aveugle, 4 saisons, tu le disais Greg, 29 victoires, 35 défaites, une seule saison en positif, hein. 6-10, 4-12, 13-3, 6-10.
Mais un Super Bowl.
Mais un Super Bowl, la seule saison en positif, il va au Super Bowl. Mais c'est vrai que sur le bilan global, en effet, il y a pas mal de saisons perdues. Pourquoi ils peuvent perdre? Qu'est-ce qui va faire perdre cette équipe de San Francisco? On peut le dire d'ailleurs assez certainement dans chaque fiche, parce qu'il y a toujours 31 chances sur 32 que tu n'ailles pas gagner le titre. Donc, il y a bien un truc qui va les faire perdre à chaque fois. Qu'est-ce qui va faire perdre ces 49ers, Lucas?
J'ai eu du mal à trouver vraiment un endroit où il y avait une vraie faiblesse flagrante. Alors, je pourrais chipoter. Greg en a parlé, notamment du côté du backfield défensif. Sherman est parti. Verrett est très fort. Est-ce que derrière, il y a assez de profondeur? Il y a des très bons joueurs en défense, notamment du côté de linebacker. Mais est-ce qu'il y a assez de profondeur? Et du coup, je vais me diriger. Et bon, ça pourrait être pour toutes les équipes, mais du côté des blessures, parce que vraiment, les 49ers, ils ont été marqués par les blessures depuis au moins depuis l'année dernière et même on peut dire 2 ans. C'est vraiment quelque chose il faut faire attention aux blessures du côté des 49ers. J'ai presque l'impression et j'ai presque envie de dire que c'est presque plus de la malchance. Maintenant, arrive un moment que c'est comme les Eagles, arrive un moment quand ça se répète, il faut se poser les bonnes questions. Et pour moi, c'est voilà, c'est la raison qui pourrait les faire perdre.
Grégory, tu les verrais perdre pourquoi toi?
Je rejoins globalement ce qu'a dit Lucas. Après, c'est vrai qu'encore une fois, je le disais, il y a peut-être ce degré de malchance, mais qui est pas forcément, influençable par le coaching staff très clairement. Je pourrais être un petit peu réservé sur l'intérieur de la ligne. Hein. Je taquinais un petit peu sur Alex Mack. C'est vrai que bon, il est pas dans ses premières années. Mais bon, on a vu que même avec des profils comme Brunskill ou ce genre de choses, même si c'était pas toujours parfait, Aaron Banks, c'est qu'un rookie. Mais bon, ouais, on voit quand même que dans le système, globalement, ça se met bien en place. C'est compliqué. Peut-être, ouais, l'inexpérience du coordinateur défensif dont je parlais tout à l'heure. Et oui, le facteur blessure.
Je suis étonné.
Dans le facteur blessure, je suis obligé de te mettre la question du quarterback. Moi, pour moi, c'est la principale problématique. Très franchement, je suis pas un fan absolu de Jimmy Garoppolo, mais je continue de penser, en effet, que s'il est en forme sur toute la saison, ce qui est déjà un paramètre important, je vois quand même San Francisco faire une campagne assez honorable.
Je suis le seul à trouver que leur groupe de receveurs est quand même très, très mince. Ils n'ont aucun joueur qui a déjà dépassé les milliards sur une saison. Alors, George Kittle est leur receveur numéro 1. Il n'y a pas de problème. C'est le meilleur tight end de la ligue. Aucun problème là-dessus pour moi. Mais en dehors de lui, qui est quand même un tight end, Brandon Ayuk, Deebo Samuel, James Ritchie, Mohamed Sanu, Jalen Hurd. Moi, je sais pas si c'est un des pires groupes de receveurs de la ligue, mais c'est pas un des meilleurs. Hein.
Je sais pas
surtout si... avec des quarterbacks à ses limites, quoi.
Je ne sais pas si tu l'as fait exprès ou si tu voulais qu'on fasse directement la transition avec le Factor X, mais tu
m'obliges
parce que clairement, pour moi, c'est le Factor X, ce groupe de receveurs et les skills players en général. Oui, il y a George Kittle qui est pour moi la seule assurance vraiment, et encore qu'il n'a pas fait une saison complète l'année dernière, je crois, et pas sûr qu'il la fasse l'année d'avant. Mais on va dire que c'est vraiment l'assurance, c'est un des tout meilleurs tight ends, peut-être parmi les deux meilleurs tight ends de la ligue. Mais derrière, il y a des bons joueurs, voire des très bons joueurs, mais Deebo Samuel, il a été blessé l'année dernière. Ayuk, je crois qu'il fait 800 yards l'année dernière, c'est pas non plus
En manquant 4 matchs. Hein.
En manquant 4 matchs, c'est vrai. Et avec, voilà, avec les blessures qu'il y avait autour de lui, mais du coup, on s'attend peut-être à mieux. Le running back Mostert, il a été blessé l'année dernière aussi. Sanu, c'est plus, il arrive pour être la deuxième ou la troisième option. Donc, c'est sûr qu'il n'est pas là pour être une cible prioritaire, mais c'est plus non plus le receveur qu'il était. Et du coup, je me pose des questions. Je me dis, voilà, quel quarterback sera derrière la ligne. Et si c'est Garoppolo, j'ai du mal à voir Garoppolo faire rendre ses receveurs meilleurs, en fait. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'eux s'améliorent vraiment.
Ouais, non, pour poursuivre là-dessus, c'est vrai que, en effet, moi, je rejoins Alain sur un paramètre. C'est-à-dire qu'en effet, cette équipe des Niners, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vrai que ça joue beaucoup sur la vitesse principalement. Mais c'est vrai qu'il manque, par exemple, ce qui avait permis à Kyle Shanahan de rendre l'attaque d'Atlanta inarrêtable, c'est-à-dire un top receveur numéro un. Alors, encore une fois, George Kittle, est-ce qu'il est? Mais est-ce que George Kittle peut performer sur toutes les zones du terrain? Ça, j'en suis pas sûr. En tout cas, sur les extérieurs, il manque peut-être cette soupape de sécurité. Encore plus, en l'occurrence, quand Kittle manque des matchs. Et ça a été quand même assez souvent le cas l'an passé, hein, comme beaucoup de joueurs des Niners. Mais il manque peut-être ce receveur numéro 1 qui peut déjà un peu plus rassurer quand tu as des quarterbacks qui sont pas top top. Après, je le répète, c'est vrai que Brandon Ayuk fait pas une mauvaise campagne l'an passé. 800 yards, il faut voir ce qu'il donne exactement lors de sa deuxième saison. Mais je te rejoins, Alain, sur le fait qu'en effet, ça ne vende pas du rêve si tu prends d'autres formations où là, pour le coup, tu as des receveurs beaucoup plus aguerris et sur lesquels tu peux vraiment te reposer si tu as besoin d'aller chercher une première tentative aérienne.
Ouais, moi j'avoue que ce sera mon facteur X aussi, le jeu aérien, que ce soit le quarterback ou les receveurs. Le calendrier de cette équipe de San Francisco, il faut que je me mette sur la bonne page, excusez-moi, j'étais sur les stats. Ça commence à Détroit, ensuite Philadelphie à l'extérieur, Green Bay, Seattle, Arizona à l'extérieur, Indianapolis après la semaine de repos, Chicago à l'extérieur, Arizona, Rams, Jacksonville à l'extérieur, Minnesota, Seattle à l'extérieur, Cincinnati à l'extérieur, Atlanta, Tennessee à l'extérieur, Houston et les Rams à l'extérieur. Évidemment, nous sommes dans la terrible division NFC West. Donc, il y a pas mal de matchs difficiles, mais il y a quand même aussi pas mal de choses à leur portée. Hein. Détroit, Philadelphie, Arizona, c'est quand même aussi à leur niveau. Indianapolis, selon le niveau de Carson Wentz, Chicago, Jacksonville, Minnesota, Cincinnati, Atlanta, Houston. Donc, il y a pas mal de matchs prenables. Jusqu'à combien ça monte, Lucas ?
12-5.
12-5. Ouh, ça commence à monter dans les... Je crois que c'est le premier 12 qu'on a.
C'est possible. Mais en tout cas, je crois que ça sera peut-être la meilleure progression par rapport au bilan de l'année dernière.
Oui, bah du coup, oui, là, ils vont prendre plus 6, selon toi.
En tout cas, 6. Oui, voilà.
C'est pas mal. Greg, combien ?
J'en avais parlé dans un précédent podcast. Je pense quand même que les équipes de NFC West vont un peu se manger les uns les autres. J'y suis allé avec 17.
Et ben, je suis à 17 également. Ça, plus une blessure qui va arriver à un moment ou un autre. Donc, je module. Moi, il y a toujours une victoire de moins pour les Niners à cause des blessures. À un moment ou un autre. Donc, je vais être à 17 aussi. Mais c'est une belle équipe. On est d'accord que ça fait partie des équipes qui... On n'a pas fait meilleur et mauvais scénario, mais dans le meilleur scénario, les 49ers sont parmi ces équipes qui peuvent aller en play-off et peut-être loin.
Ah oui, bien sûr. Voilà, c'est déjà à partir du moment où ça peut être une équipe, quand tu sais que tu es dans une division assez relevée, si tu la gagnes, il y a de fortes chances en effet que tu te retrouves dans un scénario similaire à 2019 où tu reçois pas mal de rencontres de play-off. Et à ce moment-là, voilà, faut aller les chercher à domicile, les Niners. Donc, oui, non, on est d'accord que si ça fait play-off, ça va être une équipe très, très, très chiante à jouer.
C'est la fin de cette preview de la saison des 49ers. On vous remercie de nous écouter. On vous remercie. Si vous nous soutenez sur Tipeee, n'hésitez pas à rejoindre ceux qui le font. Vous retrouvez la preview en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur sur tdactu.com, nos réseaux sociaux tdactu sur Twitter et Facebook, @jeanactu sur Instagram. Merci beaucoup, Lucas. Merci beaucoup, Grégory. On se retrouve demain pour une nouvelle preview. Ciao, ciao.